Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Emmanuel Latraverse.
J'ai pas de problème philosophique avec ça.
Mario Dumont.
Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
La rencontre.
Ça passe comme une lettre à la poste.
Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes.
La rencontre Latraverse Dumont.
Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel, bon lundi.
Bonjour.
Alors, on connaît maintenant le contenu du rapport de la coroner Jeanne Kamel sur tous ces décès en CHSLD dans la première vague de la pandémie. En gros, là, si je résume ça, on questionne le fait que le directeur national de la santé publique ait deux chapeaux. On parle de décision douteuse d'une rare insensibilité au CHSLD Aaron. Puis finalement, elle a cru le témoignage de la ministre Marguerite Blais. Emmanuel, t'as pensé de quoi tout ça?
Tout ça pour ça. Je dirais, là, objectivement, je pense premièrement que pour les familles des patients décédés, c'est un rapport important. Parce que c'est important de le mentionner, là, pour chacun des patients dont elle a étudié le cas, on a, donc ils sont 53, on a une chaîne claire, là, c'est de savoir ce qui est arrivé, quels soins ont été donnés, puis surtout dans quel cas les soins étaient complètement inadéquat, là. Tu sais, des gens dans lesquels il n'y a aucune note à leur dossier pendant un an, où on n'a pas augmenté leur médication, même s'il y avait une note au dossier pour le faire. Donc, ces gens-là ont des réponses très claires, puis ça, c'est important. Je pense aussi qu'elle évacue la question de Mme Blais. Mme Blais a fait ce qu'elle pouvait dans les circonstances. C'est à peu près ça. Pour le reste, objectivement, pour des gens qui ont suivi ça de près, il n'y a pas de grande découverte, il n'y a pas de grande surprise là. On en revient au fait que c'est un mammouth dysfonctionnel, cette histoire de sus, de trucs, de ministère qui s'envoie des consignes tellement souvent que personne ne les comprend. Qui a échappé le ballon et pourquoi, on le sait pas. Si ce n'est que les CHSLD, ce sont les enfants pauvres et que il y a bien encore des questions sans réponse. Donc, c'est un peu... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester sur leur appétit à la lecture de ce document-là.
Ouais, sûrement. Sûrement. Sur la ministre Blais, je trouve quand même... Moi, je suis sûr qu'il a défendu l'idée que c'est plus facile après de dire ce qu'il aurait fallu faire. Là. Je trouve quand même... C'est comme un peu doux. Là. C'est-à-dire que c'est quasiment... Il y a même certains médias qui disent quasiment qu'elle est félicitée, là, tu sais, ou que... Fait que, tiens, revenons-en. Là. Il reste que c'est un échec collectif. Puis si c'est un échec collectif, toute la société, puis pendant toutes les années, on s'est mal occupé des CHSLD, puis on est arrivé dans une crise. Je veux dire, ceux qui étaient aux commandes, on peut dire, ils sont pas à blâmer, là. On n'avait pas prévu ça, une pandémie, on n'était pas prêts. OK. Ben, ils ont quand même... Il y a une forme d'échec là-dedans. Là. Et en termes de responsabilité ministérielle, il y a une forme d'échec là-dedans. Pour le reste...
Sur Mme Blais, si tu me permets, moi, je trouve que c'est quand même assez doux, là. Parce que l'excuse numéro un de Mme Blais, c'est tout bien cité dans le rapport, c'est que si les CHSLD sont passés sous le radar, c'est parce qu'ils avaient l'habitude de faire face aux éclosions. Ça faisait partie de ce qui arrive dans les CHSLD, là, la gastro, l'influenza, etc. Et là, la conclusion de la coroner, et je la cite, cette vision était une fabrication de l'esprit. Ben alors, il y a un problème de compétence fondamentale, là.
Ouais.
Si mais ça, c'est pas grave, parce qu'elle est fine, puis elle a fait son possible, tu sais.
Non, mais il y a un problème de compétence. Il y a aussi un problème de compétence de santé publique. Parce que si c'est Marguerite Blais qui était en charge des CHSLD, c'est certainement pas elle qui était l'experte en pandémie, là. Et qui pouvait mesurer l'impact de dire, OK, mais dans ton réseau, attention, là, toi, voici ce qu'une pandémie signifie, là. Si elle rentre, puis voici les chemins dangereux par lesquels elle pourrait rentrer, il y a quelque chose qui s'est perdu là aussi, là, sur le plan de la santé publique. Il y a des avertissements, des plans d'action, des plans de prévention qui n'ont pas été implantés.
Mais ils n'avaient pas lu. Écoute, le sous-ministre en charge de l'approvisionnement n'avait pas lu le plan de H1N1. Donc, on a un plan pour se préparer à une pandémie. Lui, il est en charge de l'approvisionnement, de toute la patente, il ne l'avait pas lu.
Mais de toute façon, il n'était pas à jour.
Il y a un ministre qui ne l'avait pas lu. Ben oui, mais ça, en plus, mais au moins, tu dis, je pourrais aller voir qu'est-ce qu'on avait. C'est, non, il n'y a aucune curiosité.
Ben. Donc, mais certainement, on s'entend que politiquement, c'est tout un soulagement pour le gouvernement, d'autant plus qu'elle répond à une question, je ne sais pas si cette question-là lui avait été posée, mais elle répond à une question sur est-ce qu'une commission d'enquête publique, qui pour l'instant est plus un enjeu politique, c'est plus une demande des partis d'opposition, puis on pourrait avoir une longue discussion, c'est quoi leur intention réelle, puis ils font leur job. Mais là, elle dit non, selon elle, c'est pas nécessaire. Et ça, je suis quand même surpris que dans une enquête de la coroner sur les causes et circonstances des décès, etc., elle se prononce là-dessus. Ceci étant dit, la coroner, Jeanne Kamel, je pense pas qu'on puisse dire que c'est une personne là, qui naturellement est souple ou douce ou épargne les gens. Je veux dire, dans le cas de Joyce Echaquan, dans tous les autres dossiers, elle a toujours été assez dure. Donc, on est obligé de penser que si elle arrive dans ce cas-ci à ces conclusions-là, ben, ce sont ses conclusions. Là. Dans le passé, quand elle a voulu dire des choses ou jeter des blâmes ou brasser la cage, elle n'a jamais, jamais hésité à le faire. La dernière fois, c'est dans le dossier de Joyce Echaquan.
Oui, mais moi, c'est la raison pour laquelle c'est ma difficulté, je dirais, avec ce rapport-là. C'est que elle soulève plein de questions très graves, là. Je te donne des exemples. Pourquoi est-ce que c'est qui a choisi qu'on identifie Heron comme une zone rouge, tu sais, ce qui fait en sorte que le personnel passe d'un côté à l'autre. Je dis où étaient les experts en contrôle et prévention des infections du SUS. Oui, ben s'il faut comprendre qu'est-ce qui est arrivé là. Enfin, ça fait que non, ça, elle soulève la question puis elle passe à un autre appel. Les EPI, comment ça se fait qu'on n'était pas prêt? Ben, il y avait le sous-ministre dormait un peu sur la switch, mais OK. Le plan de délestage serait à revoir. Bon, on sait pas trop ce que ça veut dire. Sur le docteur Arruda, elle est très douce aussi, là. C'est
un peu moins.
C'est pas
même
clair ce qui s'est passé entre janvier et le 12 mars. Puis là, ben, elle souligne que sa critique la plus acerbe à son égard, c'est comment pouvons-nous croire qu'on peut faire face à la prochaine crise si les acteurs de premier plan ne sont pas prêts à reconnaître ou leur préparation en fait défaut. Puis elle laisse entendre que peut-être que sa position sur le masque était liée au manque d'équipement. Donc, il y a plein de fils pas attachés dans ce rapport-là. Puis c'est là que ça. C'est surprenant qu'elle dise, il faudrait réfléchir davantage à ça, mais je vais laisser le gouvernement décider. Donc, ça, à ce niveau-là, c'est pas rassurant, tu sais.
Ouais.
Que les bonnes actions vont être prises.
Ouais, effectivement.
Ouais. Emmanuel, en fin de semaine, ça a retenu pas mal l'attention aussi, là. Cette marche de la communauté anglophone contre le projet de loi 96 là, visant à réformer la charte de la langue française. Dominique Anglade, la chef du Parti libéral du Québec, était aux premières loges. Il y avait une importante délégation. Quel impact ça aura sur ses appuis qui sont de moins en moins grands là, dans la communauté francophone? Est-ce que par ce geste-là, les libéraux se sont peinturés dans le coin?
Ben, par ce geste-là, ils ont rassuré leur électorat anglophone. Donc, ils ont freiné la saignée. OK? Je pense. Du côté francophone, le problème, c'est que c'est la seule chose que la majorité de l'électorat va retenir. C'est qu'elle est allée marcher avec les Anglos contre la loi 96. Et ça, tu peux pas te remettre de ça. Je pense que c'est un constat d'échec tragique sur la façon dont elle et son entourage et son équipe ont géré ce dossier-là. C'est d'autant plus surprenant qu'ils étaient supposés s'être préparés à pas se faire enrôler dans une débandade semblable avec leurs 27 propositions pour un Français. Mais là, ils les ont désavoués. Je veux dire, c'est comme, c'est symptomatique de tout ce qui a cloché ce dossier-là dans la gestion et le leadership de Mme Anglade depuis qu'elle a pris la tête du PLQ. Moi, je pense que faut comme tourner la page, là. On va voter, il va être voté la loi 96. Bon, que son parti s'oppose, merci, bonsoir, qu'on arrête d'en parler, là. Je veux dire, c'est dévastateur. Elle ne peut pas améliorer ce dossier-là, je pense.
Moi, c'est un gros geste. Je vais me contenter. C'est pas banal là, qu'une chef du Parti libéral, moi, je suis le premier à penser que Robert Bourassa, mettons, aurait toujours dit, je peux pas faire ça. Là. Je peux pas, moi, comme chef d'un parti qui veut devenir premier ministre, je peux pas me présenter à une manifestation de la communauté anglophone. Alors, je comprends bien les circonstances où elle est. Elle peut pas laisser, elle, naître deux partis anglophones. Elle veut occuper l'espace. Mais c'est un gros, gros geste là, qui doit être analysé comme tel. Merci, Emmanuel. À demain.
Très bien, au revoir.